Tu peux nous relire la carte, Gigi?
Oui, d'accord. Alors, j'ai pris une carte crise. Et c'est Éthique des relations, monde 1993. Et elle dit, les statistiques indiquent une énorme augmentation du sida dans la catégorie sociale des femmes au foyer. Vous êtes un homme marié ou qui vivez maritalement avec une femme qui est maîtresse de maison. Votre relation est basée sur un accord de fidélité qu'elle respecte. Vous, pas. Elle est enceinte, le test HVG est positif. Alors, bilan, pour se défaire de cette carte, vous payez 10 intérieurs, c'est-à-dire que vous payez moins 10 de votre capital intérieur, et vous devez payer 3 étoiles. Et en même temps, vous allez méditer sur la corniche, sur l'éthique des relations.
Qu'est-ce que la corniche?
La corniche, c'est un endroit spécial, c'est un endroit qui est élevé, où vous avez la possibilité de voir de haut, une très belle vue.
Donc on sort du
8 du jeu.
De l'éternité, oui.
Voilà, vous sortez du jeu et vous allez réfléchir, méditer pendant un tour sur le problème ou le dilemme qui vous est posé. Hein. Et alors là, au prochain tour, donc quand ça arrive, vous avez le droit, vous avez deux options. Vous pouvez rester silencieuse, c'est-à-dire que votre méditation est intérieure, elle n'intéresse que vous. Dans ce cas, vous retournez au jeu à l'endroit où vous l'avez quitté et vous avancez normalement avec le dé. Mais vous pouvez aussi décider de partager la méditation avec les autres, hein, donc faire une méditation, une réflexion, un résultat public. Et ça, c'est valorisé parce qu'en effet, vous allez pouvoir faire avancer aussi la réflexion des autres. Et dans ce sens-là, vous allez recevoir une étoile et vous allez pouvoir avancer deux fois plus vite.
Donc l'échange entre les membres du groupe qui joue est valorisé dans ton jeu.
Tout à fait.
Voilà. Est-ce que on verra tout à l'heure ce que les gens pensent, par exemple, justement, de la corniche, hein, quand on interrogera les joueuses et joueurs qui ont déjà participé à la question, vous vous rendrez mieux compte peut-être de ce que cela veut dire.
Voilà.
Allons-nous tirer une autre carte, Gigi?
Alors, nous tirons une carte, par exemple, nous arrivons sur le funambule. Alors, le funambule, ça vous demande de faire des bilans. Un bilan comme ça, rapide, entre, par exemple, celui qui a le plus de points économiques et celui ou celle qui en a le moins. Alors, vous voyez, dans le jeu, par exemple, il y en a un qui a moins 2 et l'autre qui a moins 8. Entre deux, ils n'ont qu'une différence de 6 points. Hein? Même s'ils sont en négatif, ils ont une différence de 6 points, par exemple. Hein? Donc, si l'écart entre les deux est moins de 10, c'est bien tout le monde, alors ça c'est tout le monde dans le jeu, gagne une étoile. Et le baromètre s'élève de plus 5. On valorise les écarts, les différences de revenus, si vous voulez, entre les personnes. Par contre, si c'est plus, le baromètre descend. Hein? Et le baromètre descend d'autant plus qu'il y a plus d'écarts.
Donc, c'est un peu l'idée de convaincre les gens de suivre une certaine harmonie.
Harmonie entre eux et en eux-mêmes.
Donc si tout à coup il y avait un joueur ou une joueuse qui vraiment résolument prenait toujours des positions très individualistes, capitalistes ou bien au contraire beaucoup trop repliées sur lui-même intérieur, il faudrait que le groupe lui attire son attention.
Exactement, exactement. Alors voilà, et puis vous avez aussi une manière de gagner des étoiles, c'est faire des alliances. Vous tombez sur les cases alliances. Alors par exemple, une alliance... Ah oui, vous avez des alliances qui sont progressistes, évidemment. Puis vous avez des alliances conservatrices.
Donc parfois, on joue pas toujours ce que l'on est soi-même en tant que joueuse ou joueur.
Comme bon démocrate que tout le monde est.
Voilà, on doit vraiment jouer dans le sens vrai du terme.
Vous pouvez vous tourner un fasciste.
Voilà.
Odieux. Odieuse. Ça existe aussi.
Féminin,
n'est-ce pas ?
Bien sûr.
Bon, alors vous avez ce genre de situation à faire. Hein ? Par exemple, une alliance conservatrice en Europe serait la suivante. L'école de votre quartier veut innover avec l'horaire continu, 8h, 13h30. La majorité des professeurs et des parents sont d'accord sur cette formule. Le problème est que vous faites partie des opposants à l'horaire continu. Vous voulez absolument faire à manger à midi pour vos enfants et votre époux. Ou vous voulez absolument que votre épouse fasse à manger pour vous et vos enfants. C'est une question d'être ensemble et de former ainsi le noyau principal du quotidien. Alors, qui vous suit dans cette alliance ? Alors, quelquefois, c'est laissé au groupe de décider qui veut suivre, mais quelquefois, c'est aussi imposé par la carte. Alors, c'est tous ceux et celles qui, effectivement, vivent cet emploi du temps. Hein? En tant que parents ou enfants. Bon.
Donc, ceci conformément à la réalité quotidienne des joueurs.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Hein? Donc, tous ceux qui
en
sont
plus,
parents.
En plus de tous ceux qui aiment cette formule familiale, n'est-ce pas?
Bon. Donc, on peut se trouver tiré dans une alliance sans même l'avoir souhaité.
Alors, l'alliance, vous devez investir des étoiles. Hein? Et puis, vous devez la jouer au dé. Vous devez la gagner ou la perdre au dé. Alors, par exemple, vous devez tirer... Donc, il y a trois personnes, par exemple, qui décident d'entrer dans l'Alliance conservatrice. Et puis, par exemple, ils devront tirer le numéro 1 au dé.
Ça, hein, c'est inscrit sur la carte.
Mais il peut y avoir une contre-alliance qui s'organise aussi, hein, qui décide de faire, alors de tirer, par exemple, le numéro 6. Hein? Et alors, s'il y a échec des deux, le baromètre baisse. S'il y a échec conservateur, eh ben, le baromètre va baisser aussi. Hein? Et puis, s'il y a gain pour la résistance, hein, eh bien, il y a des gains aussi. Enfin, tu vois, c'est que ça se distribue comme ça. Hein? Et puis, c'est pas fini.
Il y a encore d'autres cartes.
Il y a encore d'autres cartes, notamment, si je crois bien que j'ai un peu parlé de tout, mais il y a aussi les diables. Alors, les diables sont de deux types. Vous avez des diables qui sont les diables sont des tâches à faire. Hein? Mais elles sont de deux types. Il y a des tâches secrètes que vous devez faire en catimini, sans que personne ne devine, parce que si vous êtes deviné en train de faire un diable, eh bien, vous perdez une étoile. Et la personne qui a deviné en gagne une.
Hmm? Si au contraire, vous l'avez placé au bon moment,
sans que personne devine, etc., à la fin d'un cycle de jeu, parce que je vous rappelle qu'il y a deux cycles de jeu, vous pouvez dire, ben moi, j'ai fait un diable, puis personne s'en est aperçu, puis vous m'en donnez une étoile pour mon diable.
Chaque joueur.
Oui. En fait, c'est même deux étoiles qu'on gagne par diable à réaliser. Alors, ça vaut le coup.
Peut-on nous donner un exemple de diable où il faut faire deviner sans que le jouer sans que les autres trouvent?
Voilà. Eh bien, par exemple, un diable secret. Vous affirmez bien à propos naturellement, donc dans le jeu, etc. Bon, moi, j'adore séduire. Mais j'imagine que je ne suis pas le seul ou la seule dans le cas. Donc, essayez de glisser cette phrase.
Hein, qui paraisse le plus naturel du monde.
Voilà. Ou bien, par exemple, vous inventez une information scandaleuse sur le sexisme.
Donc, suivant, comment les gens avec qui vous jouez vous connaissent, vous devez être très très subtil pour arriver à placer votre phrase.
Faites l'abominable macho, soyez subtil.
Hein? Et puis alors, il y a une autre forme de diable.
Alors, l'autre forme de diable, c'est des diables publics et c'est des diables mimes. En fait, ce sont des mimes. Alors, vous devez mimer des choses.
Par exemple.
Alors, ou des personnages, ou un titre de livre ou de film que vous pensez qu'il y a à voir avec ce que l'on est en train de parler, donc avec les thèmes qui sont annoncés par le jeu,
Ou le diable précise lui-même ce qu'il faut mimer.
Voilà, exactement. C'est voilà. Par exemple, vous pouvez mimer une phrase qui est « L'homme est un loup pour l'homme ». Ou bien d'autres choses, ou bien faire un personnage comme la féministe, pourquoi pas.
Donc, sur qui ça tombe, ça peut être difficile.
Etc.
Voilà.
Oui, oui.
Alors, ça, bien sûr, j'imagine que ça doit être assez drôle.
Ah, oui,
tu l'as prévu pour donner l'aspect très ludique du jeu.
Ludique, l'aspect jeu, l'aspect théâtre. Hein, c'est un peu du théâtre invisible, hein, qui suscite des interrogations, des étonnements. Enfin, comment est-ce qu'elle peut dire ça, etc. Enfin, hein, et qui en même temps, je pense que si on sent bien l'esprit du jeu, c'est vraiment pour faire des gags absolus. Parce qu'il faudrait pouvoir, par exemple, inventer des faux diables pour se faire deviner et se faire accuser injustement et pouvoir gagner une étoile de l'autre.
Mmh. Hein. J'ai encore une précision. Avant que nous donnions la parole aux joueurs et joueuses avec qui tu as déjà testé ton jeu, parce que je crois que ce sera encore plus concret quand on reparlera de chacune des choses dont tu nous as parlé maintenant, mais avec des exemples concrets que posent les joueurs et joueuses. Juste une dernière chose, tout ce qui figure sur les cartes, tu l'as trouvé où? Parce que souvent, tu nous as lu quelques cartes, il y a des citations, des sources.
Ah oui, tout ça, c'est très, très basé historiquement, scientifiquement, etc. Enfin, il y a des situations, c'est tout à partir de données de la réalité, données de l'exploitation objective, comme on dit, hein, de la situation homme-femme, et en même temps, de toutes les informations que l'on a pu prendre au niveau du travail, au niveau que les groupes féministes ont accumulé depuis très longtemps.
Hein? Donc en fait, quelqu'un qui lit une carte peut être sûr que ce qu'il lit est vrai, correspond à un événement réel, oui. Donc contribue à le documenter sur peut-être une chose qu'il ne connaît ou qu'elle ne connaissait pas.
Oui, ça c'est une préoccupation. Alors peut-être qu'il y a des erreurs qui se sont glissées, mais ça doit faire partie de tout un travail de révision extrêmement rigoureux. Hein, sur les sources, il y aurait toute une bibliographie qui accompagnerait de toute façon le jeu.
Donc le jeu pourrait être changé au fur et à mesure et surtout augmenté de toutes les découvertes que tu vas faire aux quatre coins du globe sur la situation des femmes. Voilà. Alors tout de suite, une chanson de Marisa Monch et ensuite nous écoutons les joueurs et joueuses qui ont déjà participé au jeu.
Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer.
Et oui, on aime manger, on n'aime pas seulement manger, on aime le plaisir.
Pour soulager la douleur.
Voilà, ça c'est Marisa Monch. Oui. Alors Gigi, je propose tout de suite qu'on rentre dans le vif du sujet des joueurs et joueuses qui ont déjà participé à ton jeu. Alors, j'ai téléphoné à 6 personnes. 6 personnes depuis les premiers tests jusqu'au presque dernier test. En l'occurrence, finalement, je n'ai gardé que 4 personnes. Je m'excuse d'avance auprès des personnes dont je n'aurais pas gardé le témoignage. J'ai gardé, en l'occurrence, un joueur et une joueuse 2 fois de suite pour 2 parties différentes. Un test qui avait lieu au tout début, puis un test qui pratiquement vient d'avoir lieu, pour histoire qu'on se rende compte un petit peu de l'évolution du jeu. Alors, vous allez entendre, je vous le dis déjà, d'abord, chaque fois, c'est Isabelle qui commence à parler, c'est Jean-François qui continue, Isabelle et Jean-François ayant donc joué dans la même partie. Et ensuite, vous entendrez Vicente et Rina. Rina Nissim, que nous connaissons bien aussi dans Remue Ménage, qui est notre féministe de service. Vous allez voir, c'est intéressant de voir son point de vue par rapport aux autres qui ne s'affichent pas ouvertement féministes. Enfin, vous le verrez, ça dépend de ce qu'ils disent. Donc, je répète, Isabelle Jean-François, une première partie d'un premier test il y a assez longtemps, n'est-ce pas? Et puis, Vicente et Rina, dans un test qui vient d'avoir lieu. Donc, il y a eu, en principe, tu as déjà changé le jeu.
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, tout de suite, je te propose que tu les entendes. Je leur ai posé une première question. Est-ce qu'à leur avis, c'est vraiment un jeu? Est-ce qu'on s'amuse vraiment quand on fait ton jeu ou c'est pas trop le truc éducatif, comme tu disais?
À votre avis, ce jeu est vraiment un jeu? Est-ce que vous avez eu l'impression de jouer quand vous avez fait participer à ce jeu-là?
Oui, j'ai surtout eu l'impression de jouer. Parce que, bon, on se retrouve un groupe donc de 6 personnes qui s'affrontent à un moment donné ou à un autre. Il y a une sorte de petit affrontement qui s'installe tout au cours du jeu. Le jeu, il est sorti de son axe de base, c'est-à-dire tout le côté, je veux dire, féministe, militant, disons, a été un petit peu étouffé par le côté purement jeu. Je veux dire, on aurait très bien pu jouer quelque part une sorte de triviale poursuite ou Monopoly.
Mm-hmm. Est-ce que vous l'avez trouvé compliqué?
Quelque peu compliqué. Disons, surtout pas encore vraiment abouti. C'est-à-dire que c'est bourré d'idées, de très bonnes idées, mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de lourdeur. C'est pour ça que j'ai un peu de peine, je veux dire, à juger ce jeu. C'est que, pour moi, il est encore un état de draft, vraiment. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on a passé une très bonne soirée parce qu'on était un groupe qui avait décidé, finalement, de passer une bonne soirée avec ce jeu. Donc, il est devenu plus drôle qu'il n'aurait dû être, peut-être aussi. Et on a un petit peu... dépasser tout ce côté féministe, tout le message, je veux dire, du jeu. Aussi parce que les gens qui étaient là n'avaient peut-être pas envie de rentrer dans le sérieux du message. Mm-hmm. Peut-être des gens un petit peu qui avaient une sorte de petite agressivité sur le féminisme.
Bon, non seulement j'ai trouvé que c'était un jeu, mais je me suis beaucoup amusé. Hein, j'entends. Tout en restant tout à fait sérieux, on s'est beaucoup amusé. Beaucoup amusé dans le sens pas du tout péjoratif du terme, c'est-à-dire que je trouvais intéressant par la variété aussi de la thématique employée à travers les questions. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses qui sont relativement, je dirais, avec des thèmes très forts, très puissants, très, très pertinents, et puis en même temps des choses qui sont aussi, qui ont un trait un peu à l'humour et à voir aussi des choses avec justement un peu d'humour et à se détacher un peu de... je dirais d'une réflexion immédiate qui pourrait être blessante ou quoi que ce soit, j'entends. Donc ça fait appel aussi un peu à l'émotivité des gens, ce que je trouve très intéressant. Et puis finalement, il faut aussi rire de certaines situations qui peuvent être peut-être pas toujours, qui sont peut-être pas toujours évidentes par rapport au texte même, à la première lecture du texte qu'on pourrait en faire, voilà.
Si vous voulez, pour moi, ce jeu-là, s'il est vraiment réussi, c'est-à-dire s'il est abouti, ce qui n'est pas encore le cas, il est expérimental encore. Hein. Mm-hmm. S'il est vraiment abouti, c'est assez passionnant parce que c'est toujours la tension entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel. Ce qui est quand même assez passionnant d'arriver à faire un jeu comme ça. Et effectivement, si à la fin il y a des alliances ou effectivement on se met ensemble pour augmenter la démocratie plutôt que de défendre que strictement ses intérêts personnels. Mais l'idéal, dans ce suspense de ce jeu, c'est de défendre à la fois les intérêts individuels et ceux de la collectivité.
Est-ce que vous le trouvez pas trop compliqué? Ça va on a vraiment l'impression de pouvoir jouer comme on jouerait un autre jeu qui est plus rodé.
Oui, tout à fait. Seulement si justement, vu qu'il n'est pas rodé, c'est sûr qu'il y a les règles à apprendre. Mmh. Mais vous savez, si vous commencez un jeu, n'importe lequel, même le Trivial Poursuite... pas tout de suite les règles elles interviennent. Il y a toujours un joueur qui dit « Mais non, mais c'est pas comme ça. » Et puis on relit les règles. Enfin, je crois que ça, il faut pas non plus être trop juge, parce que tout jeu, au départ, les règles sont difficiles à assimiler, si vous voulez. De mon avis, il manque encore des choses. Et les cartes, leur manque une lisibilité encore plus grande. Ces cartes-là, elles permettraient d'avoir justement cette tension encore plus grande. Mais... est-ce que c'est un jeu pour tout le monde? Je crois pas non plus, mais c'est un jeu quand même pour une large tranche de personnes, en fait, personnes qui sont un peu en route pour la, une certaine conscience ou, je sais pas, je me rends pas compte pour quelqu'un de 18 ans qu'est-ce que ça peut faire. Mais pour des gens de mon âge, qui est à peu près la quarantaine, et puis bon, on était politisés, on a été parti d'une certaine génération, ça ne pose pas tellement de problèmes.
Ah oui, alors c'est vraiment un vrai jeu, ça je peux le dire. Il y a même parmi nous des personnes qui ne sont pas très joueuses. C'est-à-dire qu'il y a même une petite réticence comme ça à participer à une chose comme ça. Elles se sont fait tout à fait prendre au jeu et au bout d'un moment, ça a vraiment, vraiment mordu. Mm-hmm. Donc c'est un vrai jeu, oui, on s'amuse vraiment.
Voilà Gigi, alors tu as l'opinion de 4 joueurs, chaque fois un homme et une femme qui ont participé à la même partie. Alors la réflexion entre Isabelle et Jean-François, les tout premiers testeurs, parmi les premiers testeurs, Irina et Vicente, et parmi les derniers testeurs, il y a quelque chose qui a attiré ton attention?
Ah oui, il y a plein de choses qui m'ont attiré l'attention. Moi je pense que c'est toute la question pour quel public c'est pas pour tout le monde, par exemple. Ça, c'est plutôt Vicente qui disait ça. Hein. Alors, en effet, c'est pas un jeu pour faire l'unanimité. Hein. Premièrement, secondo, c'est pas un jeu qui pourra être fait par des analphabètes, ça je l'ai dit. Hein. Maintenant, je ne sais pas la portée et l'intérêt que le jeu pourrait avoir pour des classes plus défavorisées. Et ça, c'est les tests qui vont me le prouver, qui vont me montrer qu'est-ce qui va être. Et j'espère pouvoir faire des tests dans des milieux très différents.
Vicente pose aussi la question des plus jeunes. 18 ans.
Oui. Alors, moi, je pense que, en effet, il faudrait introduire ça. Maintenant, je ne sais pas si ce ne serait pas, par exemple, des cartes spécifiques pour eux. Hein, par exemple, tout un jeu de cartes spécifiques pour eux. On pourrait faire le même jeu, mais avec que des thèmes pour adolescents. Je j'ai pas encore eu le temps, moi, de travailler ça. Hein.
Je peux te dire que Roland Chelso, que j'avais aussi interrogé, je n'ai pas gardé le témoignage finalement, trouvait à son avis qu'il pourrait être joué tel quel dans les sites d'orientation et collèges. Hein.
Ouais, il faudrait essayer. Il faudrait essayer, même si on se plante, mais il faudrait essayer.
En tout cas, tout le monde est unanime pour dire qu'ils se sont amusés. Et visiblement, il n'y a pas de doute sur la question.
Oui. Et puis, moi, je pense que c'est Isabelle disait peut-être un petit peu comme si c'était... ça avait été drôle, mais malgré le jeu. Comme si c'était malgré lui. Moi, je pense... Enfin, il y a eu aussi beaucoup de ça. Mais je pense que c'est aussi... Qui fait le jeu, c'est le groupe. Hein? Le jeu suscite des choses. Hein? Plein de choses.
La deuxième question que j'ai posée à nos 4 cobayes, c'était de savoir si dans leur groupe, ils étaient un nombre équivalent d'hommes et de femmes, et si à leur avis, ça avait de l'importance. Est-ce qu'il fallait avoir un groupe où il y avait forcément des hommes et des femmes, si on pouvait jouer à leur avis que des hommes, que des femmes, si l'équilibre était nécessaire au jeu.
Est-ce que votre groupe était composé que de femmes, que femmes et hommes, comment c'était?
C'était un mélange femmes et hommes.
Ça vous semble important, cet équilibre d'hommes et de femmes, pour jouer dans ce jeu-là?
Oh oui, absolument.
Quand vous parliez de cette petite compétition qui s'est instaurée, elle s'est instaurée entre les hommes et les femmes ou peu importe les sexes?
Oh, elle s'est instaurée entre les gens en général. Mmh. C'était tout d'un coup, je ne sais pas, une manière d'en rire, je veux dire.
Je pense que ce qui est très important, c'est qu'il y ait à la fois des hommes et des femmes. Mais par contre, qu'il y ait l'équivalence exacte, je veux dire qu'il y ait le nombre équivalent d'hommes et de femmes, je ne crois pas que ça me semble important. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait des types qui peuvent jouer à ça, comme il ne peut pas y avoir, à mon avis, que des femmes qui jouent à ça, parce que ça tendrait court, je crois.
Ah, c'est surtout des groupes qui ont vraiment envie de jouer cela, je pense, surtout au départ. Mais évidemment, les questions risquent d'être différentes s'il y a hommes et femmes, mais ça ne me paraît pas capital. Mm-hmm. Il peut y avoir même que des femmes, ça pourrait être très bien aussi, parce que c'est pas, il n'y a pas que le problème homme-femme, il y a aussi un peu le problème de tiers-monde, pays riches, pays pauvres, il y a quand même un peu ça. Donc c'est deux axes dans ce jeu, ça c'est mon sens.
Alors, il manque la réponse de Rina. Et Rina disait qu'à son avis, il n'y avait pas besoin d'être forcément mélangé. Il y avait des questions qui, de toute manière, telles qu'elles étaient posées sur tes cartes, J disait votre partenaire féminin, masculin. À chaque fois, la question était posée dans les deux sens. Donc, s'il y avait des groupes que de femmes, ça allait très bien. Alors, à ton avis?
Ben, il n'y a pas... Bon, c'est mieux que ça soit homme-femme, parce que ce qu'on a envie, quand même, c'est que cette discussion s'instaure le plus possible entre les deux sexes biologiques, hein, et leur représentation de genre. Mais il n'y a pas d'identité sexuelle définie vous n'avez pas d'identité sexuelle définie quand vous commencez le jeu. Vous tirez les cartes en disant vous êtes homme, vous êtes femme, etc. Hein, vous êtes chauffeur de taxi à Manille, vous êtes une paysanne au Sahel, etc. On se balade comme ça entre les classes, entre les races aussi, parce que vous êtes noire.
Donc on doit s'identifier à un personnage à un moment donné aussi.
Voilà, exactement. Vous êtes une petite fille indienne qui souffrait de malnutrition, etc. etc. Hein? Alors, ce serait bien d'avoir l'équilibre. Moi, j'ai déjà fait avec un groupe de femmes, ça a été très très beau. C'est vrai que j'aimerais pouvoir le faire qu'avec des hommes. Mais c'est clair qu'encore, j'ai des données quand même qui privilégient encore la situation des femmes. Car vous savez qu'avoir des données qui privilégient la condition masculine, c'est pas si facile que ça à trouver.
Alors avant la question suivante, eh bien je vous propose d'écouter El Baramalio. Elba Ramalho, premier amour, le premier amour. Alors la troisième question que j'ai posée à nos quatre joueurs et joueuses, c'est à leur avis, est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Puisque malgré tout, quand même, Gigi, tu as la prétention, comme tu disais tout à l'heure, de faire réfléchir les gens sur les rapports entre hommes et femmes. Oui. Est-ce que les gens, malgré tout, au bout du compte, on connaissait tout d'avance ou bien avaient appris quelque chose. Et puis, est-ce que ce fil conducteur, malgré tout, aussi avoué de la ligne féministe, n'était pas quelque chose de trop pesant ou qui faisait que le jeu était couru d'avance? Alors, voici la réponse de nos quatre joueurs.
Vous évoquiez l'aspect féministe du jeu. Ça, c'était pas une chose trop pesante dans la façon de jouer. Vous sentiez pas qu'il y avait cet enjeu-là au bout du compte.
Mais justement, c'est ça qui me gêne, c'est que je veux dire, moi, j'ai justement eu un peu de peine à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour moi,